الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد مرحبا بكم جميعا وأهلا وسهلا في هذا المجلس وهو روضة من رياض الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا ولما سئل بين أن المقصود من رياض الجنة حلق الذكر فأهلا وسهلا في هذا المجلس ومرحبا بكم Bienvenue à vous chers frères, chers croyants dans cette assise qui est considéré comme un des jardins du paradis. Comme l'a dit le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, lorsque vous passez près d'un des jardins du paradis, asseyez-vous-y. Il fut interrogé sallallahu alayhi wa sallam sur ces jardins du paradis. Il répondit, ce sont les cercles d'évocation. Les cercles où l'on évoque Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous le savez, voici le mois de Ramadan qui approche à grands pas. Dans à peu près une semaine, si Allah subhanahu wa ta'ala le veut, s'il nous allonge la vie et nous en donne la force, nous attendrons ce grand mois qui est celui du mois de Ramadan. Vous savez tous que ce mois béni a été choisi par Allah subhanahu wa ta'ala pour révéler son livre. Il nous dit سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شاهد منكم الشهر فليصمه الآية. Dans le sens rapproché du verset, le mois de Ramadan est celui au cours duquel le Coran a été descendu comme guidé pour les gens, preuve claire du chemin à suivre et discernement. Quiconque ainsi atteste de l'entrée de ce mois, qu'il le jeûne jusqu'à la fin des versets. Et si Allah subhanahu wa ta'ala a choisi ce mois pour révéler son livre, ce n'est pas anodin. C'est bien qu'il a une très grande valeur chez lui, Azza wa Jal. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné dans le Coran de manifester la joie que l'on éprouve pour le Coran. Dans le verset, il nous dit قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُ هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ. Dit, c'est par la grâce d'Allah et sa miséricorde. C'est pour cela qu'il faut éprouver la joie. Il est bien meilleur que tout ce qu'ils amassent. C'est-à-dire le Coran, comme on le retrouve dans l'explication du verset. Le Coran, le livre choisi par Allah subhanahu wa ta'ala pour nous faire sortir des ténèbres vers la lumière, de la mort vers la vie. Je ne dis pas de la mort des corps pour la vie, mais plutôt de la mort des cœurs pour leur vie. Et le Coran a été révélé sur le cœur. Allah subhanahu wa ta'ala a dit « وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ » Et c'est une révélation émanant du Seigneur des mondes. نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينَ par laquelle est descendu l'esprit digne de confiance, Jibril alayhi salam, عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ sur ton cœur afin que tu sois des avertisseurs. بِلِسَانٍ عَرَبِيٍ مُبِينٍ en une langue arabe claire et éloquente. Si l'on doit éprouver de la joie pour le Coran, comme Allah Azza wa Jal nous l'ordonne, alors nous devons en éprouver également pour la saison, la période choisie par Allah subhanahu wa ta'ala pour révéler ce livre. Et ce mois, cette saison et cette période, c'est le mois de Ramadan. Le mois de Ramadan approchant à grands pas, les gens vont s'y préparer de différentes manières. Certains pensent qu'il s'agit d'une préparation physique, financière. Certains pensent qu'il s'agit de prendre un maximum de provisions afin de trouver de quoi boire et manger sur sa table tout au long de ce mois. D'autres ont des idées différentes concernant la manière de se préparer pour ce mois de Ramadan. Alors qu'en réalité, la réelle préparation pour ce mois de Ramadan et pour le passé, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a voulu de nous et l'attend de nous, c'est la préparation du cœur. C'est la préparation du cœur en reconnaissant la grandeur de ce livre, de ce mois, de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam fait allusion à la préparation que l'on se doit de manifester lorsqu'arrive le mois de Ramadan. Dans un récit rapporté par l'imam An-Nasa'i, rahimahullah, d'après Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ses compagnons, « Hada Ramadan, qad ja'akum. Voici Ramadan qui vous est venu. Tufattahu fihi abwabul jannah. On y ouvre grand les portes du paradis. Wa tughallaqu fihi abwabun nar. On y condamne les portes de l'enfer. Wa tusalsalu fihi shayatin. Et on y enchaîne les démons. » Ainsi le prophète sallallahu alayhi wa sallam annonce à ses compagnons l'arrivée de ce mois béni, qui est un véritable champ de labour pour celui qui veut récolter ses fruits lors de la rencontre d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Comme s'il leur disait, préparez-vous, Ramadan arrive, et gardez à l'esprit qu'au cours de ce mois, les portes du paradis vous sont toutes ouvertes, celles de l'enfer sont condamnées. C'est donc la rahma, la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est répandue pour ses serviteurs croyants et obéissants. Et il est donc plus facile pour eux de se rapprocher de lui, subhanahu wa ta'ala. Et on y enchaîne les démons, de telle sorte à ce qu'ils se retrouvent complètement affaiblis. Ils ne peuvent pas inciter le fils d'Adam de la même manière qu'il l'incite en dehors de ce mois, celui de Ramadan. Toutes les portes sont ouvertes pour voir ses péchés pardonnés, pour gagner sa place au paradis, pour être épargné du feu de l'enfer. Toutes les facilités nous sont données par Allah, subhanahu wa ta'ala, pour se rapprocher de lui, pour être aimé de lui davantage, et pour gagner les récompenses qui sont celles du jeûne, qui n'ont ni semblable ni pareil. Ainsi, les doués de raison parmi les croyants se préparent à l'arrivée de ce mois et se préparent avant l'arrivée de ce mois. Certains d'entre vous savent que les pieux prédécesseurs, radiyallahu anhum wa rahimahumullah, invoquaient Allah 6 mois avant l'arrivée de Ramadan. Ils ne cessaient de demander à Allah de leur faire atteindre le mois de Ramadan jusqu'à entrer dans ce mois, le jeûner, y prier, y adorer Allah, l'invoquer, et lorsque ce mois les quittait, ils invoquaient Allah pendant 6 mois, en lui demandant de leur accepter les actions qu'ils avaient faites pendant ce mois, le mois de Ramadan. Mais le doué de raison, encore une fois, doit se poser la question, si tous ces gens ont des idées différentes et variées sur la manière de se préparer, comment moi, dois-je me préparer pour Ramadan selon ce qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala et à son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? La réponse est très longue, mais ce n'est qu'une proposition de quelques points nous permettant de nous préparer pour le mois de Ramadan, et l'on se concentrera sur le point essentiel et plus important en dernier. Car comme vous le savez, les dernières choses sont en général celles desquelles on se rappelle. La première chose que l'on citera ici, incha'Allah ta'ala, se préparer à l'arrivée de Ramadan par le renouvellement de son intention, de son cœur, de son fort intérieur. Tajdidun niyati lillahi azza wa jal. Le fait de faire en sorte que nos œuvres, pendant Ramadan, certes particulièrement, mais en réalité pendant tout instant, ne soient qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Le livre d'Allah, le Coran, regorge de versets nous invitant à reconnaître le droit à l'adoration d'Allah et lui vouer exclusivement toutes nos actions. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةَ. Et cependant, il ne leur a été ordonné que d'adorer Allah en lui vouant exclusivement le culte. Et à la fin du verset, voici la religion de droiture. أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصِ. N'est-ce pas Allah que revient de droit la religion pure, c'est-à-dire, n'est-ce pas que c'est pour Allah que toutes nos actions doivent être vouées et accomplies, subhanahu wa ta'ala. Vous connaissez peut-être al-hadith al-qudsi, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, rapportée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui n'est pas pour autant dans le Coran, mais qui est authentique, où Allah subhanahu wa ta'ala dit « Kullu amal ibn Adam lahu illa sawm, fa innahu li wa ana ajzi bih. » Toutes les œuvres du fils d'Adam sont pour lui, exception faite du jeûne. Il est pour moi, et je vais le rétribuer pour cela. Vous savez que toutes les actions sont et doivent être vouées uniquement à Allah, azza wa jal. Et pourtant, voilà qu'ici, Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne de lui vouer les actions, nous montre, pardon, le mérite ou la spécificité du jeûne, puisqu'il nous dit que toutes les actions sont au fils d'Adam, exception faite du jeûne qui est pour moi, et je le rétribuerai pour cela. L'occasion viendra, inshallah, de s'étaler dans cette parole où Allah azza wa jal dit, excepté le jeûne, il est pour moi. Mais ici, de manière brève, nous pouvons remarquer l'importance de la sincérité dans le jeûne. D'ailleurs, dans le hadith de Abu Huraira, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le sens du hadith, ما صام عبد يوما في سبيل الله إلا بعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار سبعين خريفا. Pas un serviteur n'a jeûné dans la voie d'Allah sans qu'Allah n'éloigne son visage du feu d'une distance qui équivaut à 70 automnes, c'est-à-dire 70 ans. Lorsqu'une personne jeûne un seul jour, il nous dit dans la voie d'Allah. Et qu'est-ce que veut dire dans la voie d'Allah si ce n'est un jeûne qui est voué sincèrement à Allah et qui est conforme à la manière de jeûner du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Quiconque jeûne un seul jour dans la voie d'Allah, c'est la condition indispensable, uniquement pour Allah azza wa jal. Allah éloigne son visage du feu de l'enfer d'une distance de 70 ans. Il en est ainsi pour n'importe quel jeûne. Imagine-toi alors du jeûne du mois de Ramadan, et les actions obligatoires sont bien plus aimées chez Allah et préférées que celles qui ne le sont pas et qui sont recommandées. C'est la meilleure façon de se rapprocher d'Allah Azza wa Jal que d'accomplir les actions et les actes obligatoires. L'intention est la base de tout. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا كَانَ لَهُ خَالِصًا وَابْتُغْيَ بِهِ وَجْهُ أو كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. Et Allah n'accepte des œuvres que ce qui lui est voulu, que ce qui lui est voué, pardon, exclusivement, et à travers quoi sa face a été recherchée. Subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est la première chose. Pourquoi il est important de le souligner? Car certains jeûnent pour d'autres raisons. Certains jeûnent car dans leur milieu, il serait une honte de ne pas jeûner puisque tous les gens autour d'eux le font. D'autres, car c'est une question de coutume. D'autres encore, pour montrer à autrui que l'on jeûne et que l'on est pieux. Voici comment je suis capable d'endurer la faim, la soif et autres. Toutes ces intentions rendent l'action invalide chez Allah. Et rejeter Allah n'en veut pas. Subhanahu wa ta'ala. La deuxième chose, pour se préparer à l'arrivée de Ramadan, c'est comprendre quel est le but recherché à travers le jeûne. Pourquoi est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a prescrit le jeûne? Il ne s'agit pas simplement de s'abstenir de boire, manger, rapport et tout ce qui est annulatif du jeûne. Mais c'est une question de piété. Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Ya ayyuha alladhina amanu kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqoon » Ô vous qui avez eu la foi, le jeûne vous a été prescrit, comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédés, ainsi atteindrez-vous la piété. La finalité recherchée par le jeûne, c'est d'atteindre ce que l'on appelle « at-taqwa » Taqwa Allah subhanahu wa ta'ala. Et at-taqwa, que l'on ne traduit qu'approximativement par la piété, est en réalité ce qu'a défini at-tabi'i ou al-jalil Talq ibn Habib rahimahullah, ce grand homme qui a dit « Lorsque les troubles arrivent, cherchez refuge dans la taqwa » et lui dire « Mais qu'est-ce que cette taqwa alors ?» Il répondit عمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله وترك لمعصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله أو خيفة عذاب الله. Il répondit, la taqwa consiste à œuvrer dans l'obéissance d'Allah avec une lumière venant d'Allah, en espérant la récompense d'Allah, et à délaisser la désobéissance d'Allah avec une lumière venant d'Allah en craignant son châtiment. Voici la taqwa. C'est d'accomplir l'adoration, l'obéissance d'Allah et de délaisser son interdiction avec une lumière. Qu'est-ce que la lumière? C'est la science. Tout ce que tu fais, tu ne le fais que parce que c'est légiféré par Allah et tu le sais. Et tu ne le fais qu'à la manière légiférée par Allah, en pleine connaissance de cause. Ainsi, tu évites les méfaits, les péchés, et tu te rapproches des bonnes actions et des actes d'obéissance pour Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est pour cela que le jeûne a été prescrit. Le jeûne a été prescrit pour en ressortir plus pieux, plus proche d'Allah, plus soumis à lui, plus adorateur d'Allah tabaraka wa ta'ala. Pour cette raison, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Man lam yada' qawla az-zuri wal 'amala bih falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa sharaba » Quiconque n'abandonne pas le faux témoignage et les œuvres qui en découlent, comme les péchés et les actes de désobéissance, Allah n'a nul besoin qu'il s'abstienne de manger et boire. Cela ne veut pas dire que dans un autre cas Allah éprouve le besoin. Allah est exempt du besoin et de toute imperfection, subhanahu wa ta'ala. Cependant, ces mots ont été choisis pour souligner le blâme dirigé à quiconque s'abstient uniquement de manger et boire sans concrétiser cette piété, cette obéissance d'Allah Azza wa Jal, qui consiste à délaisser les péchés et tout ce qui en découle comme mauvaises actions. Le fait de savoir pourquoi le jeûne a été prescrit va marquer une grande différence entre toi et celui qui ignore la raison du jeûne. Tu verras alors des gens qui, plus les journées seront longues et la chaleur intense, plus ils éprouveront de la joie. Parce qu'ils ont compris que ce qu'ils recherchent, c'est la taqwa. Et que plus la journée s'étale dans sa longueur, plus des portes s'ouvrent à lui pour atteindre la taqwa. Alors que celui qui n'a pas compris pourquoi le jeûne a été prescrit, plus la journée est longue, plus il se montre impatient, plus il se plaint, plus il fait apparaître la contrainte que les salafs cachaient, rahimahumullah, lorsqu'ils jeûnaient de longues journées, au point où l'un d'entre eux voyait ses lèvres séchées, il y mettait de l'huile, afin que les gens ne voient pas la contrainte du jeûne apparaître sur son visage, tellement il ne recherchait que la miséricorde, l'acceptation, la faveur, l'agrément d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Voilà pourquoi le jeûne a été prescrit. La troisième chose que l'on peut citer ici, c'est le fait de présenter ses excuses à quiconque l'on a offensé. Et d'accepter les excuses de quiconque nous a offensé, afin d'entrer dans ce mois avec un cœur qui n'est pas distrait, comme c'est le cas de beaucoup de gens, ayant dans le cœur une rancœur ou haine à l'égard d'autrui, une rancœur ou une haine qui n'est pas légiférée par Allah, car il est possible d'éprouver ses sentiments pour autrui dans des cas bien précis et définis, tels que l'innovateur ou autre encore, mais pour des raisons mondaines. Ces deux hommes ou ces deux femmes qui ont grandi ensemble peut-être, ou alors qui ont commercé ensemble, voyagé ensemble, échangé ensemble de longues années. Un détail de la dunya est venu s'immiscer dans leur relation et les voilà se détestant comme s'ils ne s'étaient jamais connus et comme s'ils étaient les pires ennemis. Non pas pour une religion, non pas pour une question religieuse, non pas pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala, mais uniquement à cause d'une part de cette dunya au sujet de laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « لَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا تَعْدِلُ عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ بَعُوضَةً مَا سَقَى مِنْهَا كَافِرًا شَرْبَةَ مَا » Si cette vie d'ici-bas avait la même valeur que l'aile d'une mouche, d'un moustique, pardon, Allah n'aurait nullement abreuvé un mécréant. Il ne lui aurait même pas donné une gorgée ou de quoi boire. Cela montre que cette dunya n'a aucune valeur chez Allah, subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous interdit de boycotter son co-religionnaire, son frère dans la foi, et pour les femmes, sa sœur dans la foi. Il nous dit sallallahu alayhi wa sallam, « La yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalathi layal » يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. Il n'est pas permis à un musulman de rompre les liens avec son frère plus de trois nuits, de rompre les liens avec son co-religionnaire plus de trois nuits, de telle sorte à ce que ils se rencontrent et voilà que celui-ci se détourne et celui-là aussi. Mais le meilleur d'entre eux est celui qui vient saluer l'autre en premier. Et combien se sont boycottés injustement, combien ont offensé autrui injustement sans présenter leurs excuses, et combien ont été offensés et n'ont pas eu la force d'âme d'accepter les excuses qui leur ont été présentées. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit, وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. Et quiconque endure et pardonne, voici là les choses auxquelles a encouragé la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le sens rapproché du verset. Pour cette raison, les salafs, les pieux prédécesseurs, rahimahumullah, n'entraient pas dans le mois de Ramadan avec une rancœur pour leurs frères ou leurs sœurs. À ce titre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam met en garde contre le boycott injuste qui n'est pas légiféré de son frère, de sa sœur, pour une question mondaine, pour une injustice de cette dunya, non pas pour une question religieuse, pour la période de une année. Dans le hadith de Abu Khirash al-Sulami, radiyallahu ta'ala anhu. Et ce hadith a été authentifié par l'imam al-Albani, il est dans Silsilatu Sahiha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Man hajara akhahu sana, fahuwa kasafki dami. » Quiconque a rompu les liens avec son co-religionnaire pendant un an, c'est comme s'il avait fait couler son sang. C'est-à-dire, chez Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme s'il avait fait couler son sang. Comment l'un d'entre vous réagirait-il s'il voyait l'un d'entre nous présents ici se lever, portant à la main une arme tranchante pour asséner un coup à son frère, et tout le monde, aux yeux de tous, on verrait son sang couler. Nul doute qu'aucun d'entre vous ne serait satisfait. Nul doute que vous serez tous étonnés de voir cela. Mais pourtant, nous trouvons chez beaucoup de gens qu'ils ne sont absolument pas étonnés de rompre les liens pour des questions mondaines, futiles, avec leurs frères, avec leurs sœurs, des gens qui ont vécu ensemble. Que dire alors lorsque nous parlons de liens, de la fratrie, des frères et sœurs de sang qui ne se parlent plus? L'un d'entre eux ne rend plus visite à l'autre, l'autre ne rend plus le salut à ce dernier, et ainsi de suite. Wallahu al-musta'an. Comment une telle personne, Allah Azza wa Jal va lui donner la saveur de la foi, alors qu'elle porte dans ce cœur ce qui déplaît à Allah Azza wa Jal? La saveur de la foi est la plus grande des richesses, le plus précieux des trésors. L'un d'entre vous ici, s'il était riche et qu'il possédait des diamants ou des pierres précieuses, il n'accepterait jamais de les mettre dans des endroits sales, n'est-ce pas? Dans des endroits qui ne sont pas dédiés à ce genre d'objets de valeur. Mais il choisirait plutôt un coffre-fort bien gardé, un endroit le plus propre, le plus pur. Est-ce que l'on va penser qu'Allah subhanahu wa ta'ala va déposer ce bijou le plus précieux qui est la foi dans un cœur sali par ce qui lui déplaît, subhanahu wa ta'ala? Non, et bien sûr que non, wallahu al-musta'an. Parmi les manières de se préparer pour le mois de Ramadan, le fait de s'instruire dans les règles du jeûne, de savoir qu'est-ce que le jeûne? Qui doit jeûner? À partir de quand son jeûne commence? Quand est-ce qu'il s'arrête? Qu'est-ce qui est considéré annulatif du jeûne? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Savoir, avoir un minimum de notions relatives au jeûne nous permettant d'accomplir cette adoration comme il plaît à Allah, subhanahu wa ta'ala. Et de connaître justement toutes les règles qui en découle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. La quête du savoir est un devoir incombant à chaque musulman. L'imam Ahmed rahimahullah a dit, c'est-à-dire qu'il est obligatoire à chaque musulman et musulmane d'apprendre de sa religion ce qui concerne ses actes cultuels qui la concernent, comme ta prière, ta purification, ton jeûne, ton pèlerinage. Tout ce que tu as l'obligation de faire, tu dois savoir le faire. Beaucoup de gens annulent leurs actions sans savoir. Et Allah Azza wa Jalla a mis en garde contre cette chose qui est d'annuler les actions sans savoir. Il nous dit « Antah bata a'malukum wa antum la tash'urun ». Vos actions deviendraient vaines sans que vous ne vous en rendiez compte. Allahu Akbar. Nas'alullah Azza wa Jalla an yaltufa bina wa an yarhamana wa yahdiya qulubana. Le pèlerinage, mes très chers frères, a de grands mérites et de grandes faveurs, parmi lesquelles, sans le moindre doute, la purification de l'âme. Car ce jeûne empêche à l'âme de faire ce qu'elle a l'habitude de faire, à savoir manger, boire, avoir des rapports, et tout ce qui, en dehors du jeûne, est à la base licite. Le jeûne, l'imam Ahmed rahimahullah, na'am, a dit que la science obligatoire concerne les actes cultuels qui te sont obligatoires, tels que le jeûne du mois de Ramadan. Et donc, nous le disions, parmi les intérêts à jeûner le mois de Ramadan, il y a bien l'éducation de l'âme. En habituant l'âme à se restreindre, à se priver de ce qu'elle aime. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, dans l'introduction de son écrit intitulé Al-Wabil al-Sayyib min al-Kalim al-Tayyib, la verse abondante de bonnes paroles, nous dit Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit à ses serviteurs l'adoration dans deux états. Le premier, l'aisance. Le second, la contrainte. Et la plupart des gens, nous dit-il, ne manifestent l'adoration à Allah et sa servitude que dans la situation d'aisance et ont des défaillances flagrantes dans la contrainte. Il nous donne en exemple le fait que faire ses ablutions avec de l'eau fraîche lors de la chaleur intense, c'est une adoration pour Allah subhanahu wa ta'ala. Tout comme le fait de faire ses adorations avec de l'eau fraîche pendant qu'il fait un froid hivernal, c'est aussi une adoration pour Allah Azza wa Jal. Cependant, la différence est énorme entre les deux. Et tout se joue, tout se prouve, tout se montre lors de l'adoration qui est faite dans la contrainte que tu dois endurer pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et les gens qui mettent en application ces deux formes d'adoration de manière complète, qui sont l'adoration dans l'aisance et l'adoration dans la difficulté, sont les adorateurs d'Allah qui obtiendront la suffisance, la protection d'Allah, au sujet desquels Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Alaysa Allahu bikafin abdah » N'est-ce pas qu'Allah est suffisant à son serviteur, c'est-à-dire qu'il l'adore dans l'aisance et dans la contrainte. C'est donc une des raisons pour lesquelles le jeûne a une particularité sur les autres adorations, car c'est une contrainte physique, pas du cœur. Le cœur, lui, il l'aime. Le cœur du croyant, il ne sent pas ça comme une contrainte. Mais le corps, oui, parce que ce corps a l'habitude de manger, de boire à n'importe quelle heure. Il a l'habitude d'assouvir ses désirs quand bon lui semble, et le voilà qu'il doit se retenir dès l'aube jusqu'au coucher du soleil. Tout ceci pour plaire à Allah. Subhanahu wa ta'ala. C'est donc quelque chose de grand pour Allah. Subhanahu wa ta'ala. Et c'est une manière d'éduquer son âme. Et l'imam Ibn al-Qayyim, l'imam Ibn Rajab, rahimahullah, a dit فَإِنَّ النَّفْسَ إِذَا دَامَتْ عَلَى شَهَوَاتِهَا أُصِيبَتْ بِالْأَشَرِ وَالْبَطَرِ وَالْغَفْلَةِ. Car lorsque l'âme prend habitude de façon continuelle d'assouvir ses désirs, elle est alors atteinte de l'insouciance et du mal. وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ. Derrière le jeûne, il y a également la réforme des cœurs. Et tout ce qui plaît à Allah, subhanahu wa ta'ala. Et le dernier point que je voulais vous citer, mes frères, c'est la préparation du cœur. La préparation du cœur pour passer ce mois comme Allah, subhanahu wa ta'ala, le veut. Car beaucoup de gens, oui, beaucoup de gens, ne vont pas préparer leur cœur. Ils ne vont pas savourer cette adoration. Ils vont perdre leur temps dans tout ce qui détourne du chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils vont jeûner, oui. Ils vont s'abstenir de manger, de boire, oui. Ils vont prier, oui. Et à la fin, ils ne vont récolter que la fatigue, la soif et les nuits blanches. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith rapporté par l'imam Ahmed, rahimahullah, d'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش ورب قائم حظه من قيامه السهر. Il est possible qu'un jeûneur ne récolte de son jeûne que la faim et la soif. Et il est possible que quelqu'un qui prie ne récolte de sa prière que les nuits blanches, que la fatigue. Subhanallah, il a jeûné à tes côtés, il a prié à tes côtés, il s'est abstenu comme tu l'as fait, il s'est tenu debout comme tu l'as fait. Il arrive le jour dernier, il ne voit que de la fatigue, la faim, la soif. En termes de récompense, rien. Pourquoi ? Parce que les adorations qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a prescrites, subhanahu wa ta'ala, prennent vie lorsque le cœur est présent. Quand le cœur est absent, ce n'est qu'un acte apparent qui n'a pas une si grande valeur et qui n'est pas aimé d'Allah, subhanahu wa ta'ala. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah nous dit qu'il est possible que deux personnes prient côte à côte tout en faisant exactement les mêmes gestes, alors que la différence entre ces deux personnes est semblable au ciel et à la terre. Qu'est-ce qui fait la différence? C'est ce qu'il y a dans le cœur. Les salafs ont dit, Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu, le meilleur homme après tous les prophètes qui a foulé la terre, l'homme le plus pieux, l'homme le plus pur des croyants, radiyallahu anhu, ne nous a pas dépassé par beaucoup de prières ou beaucoup de jeûnes. Mais il ne nous a dépassé que en raison de quelque chose qu'il avait dans le cœur. Radiyallahu ta'ala an. Il est possible qu'un jeûneur ne récolte que la faim et la soif. Que quelqu'un qui prie ne récolte que les nuits blanches. Wallahu al-musta'an. L'imam Ibn Rajab rahimahullah nous dit dans ce hadith, وسر هذا أن التقرب إلى الله بترك المباحات لا يكمل إلا بعد التقرب إلى الله بترك المحرمات. Le secret de cette information dans ce hadith, c'est que le rapprochement avec Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque l'on délaisse ces choses qui sont licites à la base, manger, boire, avoir des rapports entre les époux et tout ce qui est annulatif du jeûne, n'est effectif que dès lors que la personne délaisse aussi ce qu'Allah lui a interdit. Subhanahu wa ta'ala. فَمَنْ اِرْتَكَبَ الْمُحَرَّمَاتِ ثُمَّ تَقَرَّبَ إِلَى اللَّهِ بِتَرْكِ الْمُبَاحَاتِ كَانَ بِمَثَابَةِ مَنْ يَتْرُكُ الْفَرَائِضِ وَيَتَقَرَّبُ بِالنَّوَافِلِ. Et soyez attentifs, car cela montre la connaissance des savants qui connaissent Allah Azza wa Jal. Il nous dit, il en est ainsi, car celui qui accomplit des interdits, des péchés, puis qui va chercher à se rapprocher d'Allah en délaissant des choses qui à la base sont licites, c'est-à-dire lors du jeûne, il est à l'image de celui qui délaisse les obligations, puis cherche à se rapprocher d'Allah par les nawafil, les actes recommandés, qui se font de manière supplémentaire aux actions prescrites, les actions obligatoires, à l'image de ceux que vous allez voir, mes frères, malheureusement, pendant Ramadan, chez ces gens qui ne se présentent pas à la mosquée pour les 5 prières, mais qui arrivent pour le tarawih. Ils n'ont pas compris que ce qui est plus aimé d'Allah, ce sont les obligations. Une seule prière en groupe à la mosquée, parmi les 5 prières, est meilleur que tout le tarawih pendant Ramadan. Des heures et des heures. Car Allah Azza wa Jalla a dit dans le hadith al-Qudsi, وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَ مِمَّ افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ. Et mon serviteur ne s'est pas rapproché de moi par quelque chose de meilleur que ce que je lui ai prescrit, c'est-à-dire légiférer de manière obligatoire. subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est une des ruses de shaytan pour distraire le serviteur d'Allah des actions obligatoires avec les actions qui ne le sont pas. Il se peut qu'un jeûneur ne récolte que la faim et la soif. À ce titre, l'imam, le grand savant Ibn al-Uthaymin, rahimahullah, a dit « Amma alladhi yajibu anhu sawm, fala'allakum tastaghribun, idha qultu inna alladhi yajibu anhu sawm, huwa al-ma'asi. » Quant à ceux qu'il faut s'abstenir de faire pendant le jeûne, c'est-à-dire à la base, c'est la nourriture. Le jeûne, c'est la nourriture, la boisson, rapport, et tout ce qui est annulatif du jeûne. Le shirk va nous dire. Quant à ce qu'il faut s'abstenir de faire durant le jeûne. En d'autres termes, quant à ce en quoi consiste le jeûne. Vous allez peut-être vous étonner si je vous dis qu'il consiste au délaissement des péchés. C'est-à-dire, voilà le vrai jeûne. Le délaissement des péchés. Yajibu an yasum al-insanu anil ma'asi. L'homme a le devoir de s'abstenir, de jeûner des péchés. لأن هذا هو المقصود الأول من الصوم. Car c'est le but principal du jeûne. لقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ô vous qui avez eu la foi, le jeûne vous a été prescrit, comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédé. Ainsi atteindrez-vous la piété. الشيخ ابن العثيمين قال الله يفاس ميزيريكورد أجي لم يقول لعلكم تجوعون أو لعلكم تعطشون أو لعلكم تمسكون عن الأكل. Il n'a pas dit ainsi allez-vous goûter à la faim, à la soif, allez-vous vous abstenir de manger. Là قال لعلكم تتقون. Il a dit ainsi atteindrez-vous la piété. هذا هو المقصود الأول من الصوم. C'est le but principal du jeûne. وحقق النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وأكده بقوله من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. Le prophète صلى الله عليه وسلم a réalisé cet objectif et l'a confirmé en disant quiconque ne délaisse pas le faux témoignage et les œuvres qui en découlent, les péchés, Allah n'a nul besoin qu'il s'abstienne de manger et de boire. Ibn al-Uthaymin, rahimahullah, dit, إذن, أن يصوم الإنسان عن معاصي الله عز وجل, هذا هو الصوم الحقيقي. Que l'homme jeûne en délaissant les interdits d'Allah, voici le véritable jeûne. Il poursuit, أما الصوم الظاهري, فهو الصيام عن المفطرات, والإمساك عن المفطرات. تعبدا لله عز وجل من طلوع الفجر الى غروب الشمس. Quant au jeûne apparent, cela consiste à chercher à se rapprocher d'Allah en s'abstenant de tout ce qui rompt le jeûne, de l'aube au coucher du soleil. Il nous dit ensuite هذا صوم نسميه الصوم الظاهري. Ce jeûne là nous le surnommons le jeûne apparent. صوم البدن فقط. C'est le jeûne du corps uniquement. Il nous dit amma sawmul qalb. Quant au jeûne du cœur, alladhi huwa al-maqsud al-awwal, fa huwa sawmu an ma'asi Allah 'azza wa jall. Le jeûne du cœur qui est le but principal, c'est le jeûne qui consiste à s'abstenir de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est cette éducation qui a été reçue par les salafs, par les pieux prédécesseurs, parmi les sahaba, les compagnons et les générations premières qui les ont succédés. Et pour cette raison, plein de paroles de sagesse ont été retenues de leur part. Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma, le noble compagnon, a dit « Ida sumt, fal yasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka anil kadhibi wal ma'tham, wa da'a adhal khadim » وليكن عليك وقار وسكينة يوم صومك ولا تجعل يوم فطرك ويوم صومك سواء. Quand tu jeûnes, nous dit-il, fais en sorte que ton ouïe, ta vue et ta langue jeûnent aussi contre le mensonge et les péchés. Et prends garde à offenser ton servant. Et sois plein de quiétude le jour de ton jeûne. Ne fais pas du jour de rupture, et du jour de jeûne deux jours égaux. Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu a dit: Laysa as-siyamu min ash-sharab wa at-ta'am wahdah. Le jeûne ne consiste pas uniquement à se priver de manger et de boire. Walakinahu min al-kadhibi wal-batil wal-laghwi. Mais il est aussi le fait de s'abstenir de mentir, de faire tout ce qui est faux et détestable. Le tabi'i Maymoun ibn Mihran, rahimahullah, a dit: Inna ahwana as-sawmi tarku at-ta'ami wash-sharab. Le jeûne le plus facile, écoutez bien, le jeûne le plus facile, le plus simple, nous parlons des salafs, pour eux qui ont compris le but de l'adoration d'Allah, Azza wa Jal. Le jeûne le plus simple, qui est celui qui est le plus compliqué pour l'individu au cœur malade, est le fait de jeûner en s'abstenant de manger et de boire. Chez les salafs, c'est facile de s'abstenir de manger et de boire. Mais pour eux, le vrai jeûne, c'est d'accompagner cette abstention à l'abstention de ce qui déplaît à Allah, subhanahu wa ta'ala. Chers frères, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith de Abu Huraira: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. Toutes les actions du fils d'Adam sont pour lui. الحسنة, la bonne action, est multipliée par 10 jusqu'à 700 fois plus qu'elle ne l'est. Il est possible qu'Allah Azza wa Jal multiplie une prière que tu as accomplie par 10, 100, 200 et jusqu'à 700 et jusqu'à ce qu'il veut. Subhanahu wa ta'ala. Il nous dit: قال الله عز وجل إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. Allah Azza wa Jal a dit: à l'exception du jeûne, il est pour moi et je le rétribue pour cela. إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. Il a délaissé, c'est-à-dire le jeûneur, ses désirs, sa nourriture et sa boisson pour moi. لِصَائِمِ فَرْحَتَانِ. Le jeûneur éprouve doublement la joie. فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ. Une joie lors de la rupture. وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ. Et une autre lors de la rencontre de son Seigneur. L'imam Ibn Rajab rahimahullah, en commentant ce récit, nous dit: إِسْتِثْنَاءُ الصَّوْمِ مِنَ الْأَعْمَالِ الْمُضَاعَفَةِ فَتَكُونُ الْأَعْمَالُ كُلُّهَا تُضَاعَفُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى 700 ضِعْف إِلَّا الصِّيَامِ فَإِنَّهُ لَا يَنْحَصِرُ تَضْعِفُهُ فِي هَذَا الْعَدَدِ بَلْ يُضَاعِفُهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَضْعَافًا كَثِيرًا بِغَيْرِ حَصْرِ عَدَدِ فَإِنَّ الصِّيَامَ مِنَ الصَّبْرِ وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ. Quelle parole de science! Ibn Rajab rahimahullah, qui a étudié chez l'imam Ibn al-Qayyim, imam, élève d'imam, Ibn Rajab est l'imam d'Ibn al-Qayyim, Ibn al-Qayyim est l'imam d'Ibn Taymiyyah, rahimahumullah. Il nous dit: l'exception qui a été évoquée dans ce hadith du jeûne, lorsque l'on parle des actions qui sont décuplées, dont les récompenses sont multipliées, on voit qu'elles sont multipliées jusqu'à 10, voire jusqu'à 700, puis on nous dit, sauf le jeûne. C'est-à-dire le jeûne, on ne lui donne pas de nombre. Pour le jeûne, on ne va pas dire 700, 1000, 2000. Pourquoi? Il nous dit: car Allah Azza wa Jal le multiplie sans mesure, sans limite. Ceci car le jeûne fait partie de la patience. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit concernant la patience: il ne rétribuera les endurants pour leurs bonnes actions que sans compter. Subhanahu wa ta'ala. Et dans une version du hadith qui est aussi authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, qu'il dit: لِكُلِّ عَمَلٍ كَفَّارًا وَصَوْمُ لِي وَأَنَا أَجْزِبِهِ. À chaque action, une expiation. Sauf le jeûne. C'est moi qui va le rétribuer. الإمام سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى a donné une explication qui a été jugée par l'imam Ibn Rajab comme étant une des meilleures. Il nous dit وَمِنْ أَحْسَنِ مَا قِيلَ فِي مَعْنَى ذَلِكَ مَا قَالَهُ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَ رَحِمَهُ اللَّهِ. Parmi les meilleures paroles dites dans l'explication de ce hadith, ce qu'a dit Sufyan ibn Uyayna, qu'Allah lui fasse miséricorde, il dit قال هذا من أجود الأحاديث وأحكمها. Sufyan ibn Uyayna, des salafs, des imams de la sunna et du hadith, a dit ce hadith-là fait partie des meilleurs et des plus sages. إذا كان يوم القيامة يحاسب الله عبدا ويؤدى ما عليه من المظالم من سائر عمله حتى لا يبقى إلا الصوم فيتحمل الله عز وجل ما بقي عليه من المظالم ويدخله بالصوم الجنة. الله أكبر. سفيان بن عيينة nous dit que lorsque viendra le jour dernier, vous savez que chacun ou beaucoup parmi les gens ont offensé des autres, et le jour dernier les victimes d'injustice reprendront leurs biens en hasanat. Ils viendront et reprendront les hasanat de ceux qui les ont offensés parmi les gens. Ibn Uyayna rahimahullah nous dit ce qui est voulu du hadith quand Allah azzawajal dit, quand dans le hadith il est dit li kulli amalin kafara, à chaque action une expiation, c'est-à-dire le jour dernier chaque offense faite à autrui aura son expiation. Elle va être réparée avec les hasanat. Si tu as offensé autrui, si il a offensé autrui, je ne te le souhaite pas du tout. Si il a offensé autrui, on viendra, cet autre viendra lui prendre ses hasanat. Mais il ne pourra pas lui prendre le jeûne. Il ne pourra pas, personne ne pourra lui prendre le jeûne. Pourquoi? Parce qu'il est à Allah, subhanahu wa ta'ala. Ainsi, on lui prendra toutes ses hasanat, mais il lui restera le jeûne, et par le jeûne, Allah le fera entrer au paradis. Allahu Akbar. Et ce hadith est rapporté par l'imam al-Bayhaqi, rahimahullah ta'ala, et il a été jugé authentique par l'imam al-Albani, car en réalité c'est un hadith. Et s'il n'y avait que ça comme mérite pour jeûner, wallahi, si la personne comprenait ça, elle ne pourrait pas dire « Il fait chaud aujourd'hui, les journées sont longues, c'était très fatigant, c'était trop fatigant. Ya miskin, anta tat'ab. » تتعب لجنة عرضها السماوات والأرض. Tu te fatigues pour un paradis aussi vaste que les cieux et la terre. أنت في عبادة. أنت في عبادة. ما هذا الكلام. Tu es dans une adoration. Comment dis-tu une telle parole? Savoure l'adoration d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Voici donc quelques actions, c'est ce par quoi l'on va conclure, inshallah, très méritoires, auquel nous a encouragé le prophète Mohammed, alayhi salatu wa salam. Tout d'abord, vous le savez, la lecture du Coran est une des actions les plus méritoires pendant le mois de Ramadan. Le prophète lui-même, alayhi salatu wa salam, lisait le Coran et redoublait d'efforts durant le mois de Ramadan. Il recevait l'ange Jibril alayhi salam chaque année pendant Ramadan, pour lui faire réviser ce qu'il connaissait du Coran. Jusqu'au moment où la descente, la révélation du Coran a été clôturée, complétée, Jibril est descendu et lui a fait réviser tout le Coran. Sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, la lecture du Coran, pendant le mois du Coran, est connue chez les salafs. Et chez eux, il y avait des exemples sans pareil. Certains le lisaient tous les trois jours, certains le lisaient tous les deux jours, certains le lisaient tous les jours, tout le Coran. Certains le lisaient une fois la nuit, une fois le jour. C'est-à-dire 60 fois pendant Ramadan, ils lisaient le Coran. Et on ne va pas te dire, lis 60 fois le Coran. Je ne vais pas, moi aussi qui est devant toi, te mentir, à faire comme si j'étais ton exemple dans cela, loin de là. Cependant, il est possible à l'un d'entre nous de le lire au moins une fois. Et ceci en lisant 2 hizb par jour. Le Coran en a 60. Un hizb contient à peu près 10 pages. Si tu lis l'équivalent de 20 pages par jour, tu termines le mois avec la lecture du livre d'Allah complet. Subhanahu wa ta'ala. Les gens lisent des livres d'écrivains, de philosophes, et ils disent « j'ai lu tel livre ». Tu veux voir ma bibliothèque? Tu connais tel nom? Tel écrivain? J'ai lu tous ces livres. J'ai toutes ces encyclopédies. Je peux même t'évoquer certains passages si tu veux. Chaque fois dans mes trajets, dans mes transports, je lis. هل من قائل قرأت كلام الله عز وجل وأكملته؟ Y a-t-il quelqu'un pour dire j'ai lu le livre d'Allah entièrement pendant Ramadan? Et ce n'est pas facile, ce n'est pas difficile. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ Nous avons facilité le Coran pour le rappel. Y a-t-il quelqu'un pour se rappeler? Celui qui ne sait pas lire la langue arabe? Eh bien voilà mon frère, voilà ma sœur. Le moment n'est-il pas venu de te remettre en question et d'apprendre cette langue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'apprendre au moins l'alphabet, toi qui en es capable? Le moment n'est-il pas venu d'apprendre afin de pouvoir lire et tenir la parole d'Allah dans ta main pendant Ramadan et même pendant autre que Ramadan, qu'Allah nous l'accorde, qu'Allah nous le facilite? Car mes frères, savoir quelque chose est une chose, mais l'appliquer, c'est tout autre. Et l'application ne vient pas si tu es intelligent, motivé, fort, si tu fournis des efforts, mais elle ne vient que si Allah te l'offre, car c'est un cadeau d'Allah subhanahu wa ta'ala. At-tawfiq biyadillah. La réussite, l'assistance, est dans la main d'Allah uniquement, subhanahu wa ta'ala. Après la lecture du Coran, l'imam al-Bukhari nous dit, d'après Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. Le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم était le plus généreux des gens, et le moment où il était le plus encore généreux est Ramadan, quand il rencontrait Jibril. وَكَانَ جِبْرِيلُ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ. Jibril venait à sa rencontre chaque nuit de Ramadan pour lui faire réviser le Coran. فَلَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ أَجْوَدُ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, quand Jibril venait à sa rencontre, se montrait plus généreux encore dans le bien que les vents envoyés. Vous vous dites, qu'est-ce que cela veut dire les vents envoyés? Le grand savant, le Cheikh Abdul Mohsin Al-Abbad, hafidhahullah ta'ala, a expliqué ce récit en disant que lorsque Jibril venait au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui faire réviser le Coran, le prophète sallallahu alayhi wa sallam savait que c'était une faveur d'Allah, un grand bienfait d'Allah. Alors il se montrait reconnaissant en donnant de ce qu'Allah lui a facilité. Et il se montrait généreux au point de donner comme celui qui ne craignait pas la pauvreté, au point de ne jamais refuser à quiconque lui demandait alayhi salatu wa sallam. Et il était encore plus généreux pendant Ramadan que les vents envoyés. Qu'est-ce que les vents envoyés? Avant que la pluie ne tombe, Allah Azza wa Jalla nous enseigne dans le Coran qu'il envoie les vents. Allahu alladhi yursilu ar-riyaha fatuthiru sahaba. Allah envoie les vents. Allah est celui qui envoie les vents, qui réunissent des nuages. Et ces nuages qui se réunissent vont se diriger par les vents, poussés par les vents, jusqu'à l'endroit décrété par Allah. Et alors l'eau va tomber. Et l'eau, c'est la vie. C'est la base de tout le bien. Allah Azza wa Jalla a dit, وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. Et nous avons fait toute chose vivante à partir de l'eau. À tel point que dans la sunnah, il y a salat ul istisqa. la prière de demande de pluie, à tel point que les agriculteurs et les cultivateurs, parmi les croyants, lorsqu'ils voient la pluie tomber, se prosternent pour exprimer leur gratitude à Allah, Azza wa Jal. Ces vents qui sont arrivés sont des signes annonciateurs d'un grand bien qui va arriver, n'est-ce pas? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pendant Ramadan, était plus généreux. Il arrivait avec le bien plus rapidement que les vents n'arrivaient pour pousser les nuages et pour faire tomber la pluie. Alayhi salatu wa salam. Et parmi cette générosité qui se manifeste pendant le mois de Ramadan, il y a celle qui consiste à nourrir des jeûneurs et à les abreuver. L'imam Tirmidhi rapporte d'après Zayd ibn Khalid al-Juhani radiyallahu anhu, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فطر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. Quiconque nourrit un jeûneur en aura la même récompense sans pour autant diminuer en rien sa récompense, c'est-à-dire la récompense du jeûneur. Lorsque tu fais rompre le jeûne du jeûneur en lui offrant un plat qui va le rassasier, une boisson qui va l'abreuver, il va boire à satiété, eh bien, tu auras la récompense de cet homme sans diminuer la sienne. Il garde sa récompense et tu prends la sienne. Imagine-toi alors, si tu nourris 2 personnes, chaque jour. Imagine-toi si tu en nourris 3. Imagine-toi en nourrir 10. Imagine-toi en nourrir 350 chaque jour. Tu vas me dire, c'est difficile. Je vais t'inviter à quelque chose qui va te montrer que c'est très facile. Après, Inch'Allahu Tabaraka wa Ta'ala, tu as la même récompense. Que dire alors lorsque ce jeûneur en question est un pauvre qui ne trouve pas de quoi manger ni de quoi boire? Toi, quand tu manges, tu en laisses, quand tu es rassasié, tellement tu en as. Mais lui, s'il mange, va-t-il se rassasier? S'il boit, va-t-il s'abreuver comme il se doit? Imagine-toi, toi, le nourrir grâce à Allah, Azza wa Jal, la récompense. Parmi les bonnes actions, pendant le mois de Ramadan, le jeûne, bien entendu, et la prière de Tarawih, la prière de nuit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: "Man sama Ramadan imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Quiconque jeûne Ramadan avec conviction, avec foi et conviction en la récompense d'Allah, ses péchés passés lui seront pardonnés. Chaque Ramadan, celui qui jeûne en étant convaincu qu'il le fait parce qu'Allah l'a prescrit, l'a légiféré, en obéissance à Allah, Azza wa Jal, et en attendant sa récompense, ses péchés passés lui seront pardonnés. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa ramadan ila ramadan kaffaratun lima baynahun, idha jtunibatil kaba'ir. Et un ramadan jusqu'à un autre ramadan sont des expiations pour les péchés commis entre les deux, tant que les péchés majeurs sont délaissés. Ainsi, l'on comprend que les péchés pardonnés sont les mineurs, ceux desquels ne découlent pas des menaces dans les textes du Coran et de la Sunna. Également, la nuit de Laylatul Qadr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit d'y prier. Man qama Laylatul Qadr imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Quiconque prie la nuit du destin avec foi et attente, espoir en la récompense d'Allah, ses péchés passés lui seront pardonnés. Et de manière plus générale, la prière de Ramadan. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Quiconque prie Ramadan, ses péchés passés lui seront pardonnés. Sachez que pendant Ramadan, les gens vont se diviser en 2 de façon inévitable. Il n'y a pas 3 catégories de personnes pendant Ramadan. Il n'y en a que 2. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous les cite et décrit dans un récit rapporté par l'imam Tirmidhi d'après Abu Huraira, Et cette information, je vous invite à la garder à l'esprit et à vous en rappeler dès la première nuit de Ramadan. Il nous dit, إِذَا كَانَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانٍ. Quand arrive la première nuit du mois de Ramadan, que se passe-t-il? صُفِّدَتِ الشَّيَاطِينَ وَمَرَدَتُ الْجِنَّ. Les shayatines et les démons rebelles sont enchaînés. Ils sont considérablement affaiblis. Ils ne peuvent plus inciter le fils d'Adam au péché comme ils peuvent le faire en dehors de Ramadan. Les démons sont enchaînés. وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ. Les portes de l'enfer sont condamnées, si bien qu'aucune d'entre elles n'est ouverte. وَفُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ. Les portes du paradis grandes ouvertes, aucune d'entre elles n'est fermée. وَيُنَادِ مُنَادٍ. Un héros appelle, un appeleur élevant la voix appelle. Il dit, et ça c'est pendant la première nuit, dès que la première nuit arrive. Il dit, يَا بَارِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ وَيَا بَارِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ. Ô toi qui veux le bien, avance. Ô toi qui veux le mal, recule et va-t'en. Ainsi les gens se divisent en deux pendant Ramadan d'après ce texte. Celui qui veut le bien, celui qui veut saisir l'occasion, et celui qui va la gagner. Et le deuxième, c'est celui qui veut le mal. C'est la personne à l'âme souillée, qui ne sait pas voir ses péchés pardonnés pendant le mois de Ramadan, qui ne sait pas gagner la miséricorde d'Allah pendant Ramadan. Et vous allez voir ce qui va advenir de cette personne. Le prophète alayhi salatu wasalam nous dit, وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَٰلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ. Et Allah a des affranchis du feu de l'enfer, et ceci à chaque nuit. Chaque nuit Allah choisit des gens. Chaque nuit demande-toi, est-ce qu'Allah m'a choisi aujourd'hui? Est-ce qu'Allah Azza wa Jal m'a choisi aujourd'hui pour sortir du feu, pour ne pas y entrer? نَسْأَلُ اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ نَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنَا مِنْ عُتَقَائِهِ مِنَ النَّارِ إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ. Et pour conclure, qu'est-ce qui advient de ces gens, Bari Ashar, qui veulent le mal pendant Ramadan? Ibn Khuzayma rapporte, d'après Abu Huraira, qui dit, أَنَّ النَّبِيَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ صَعِدَ الْمِنْبَرِ فَقَالَ آمِنْ آمِنْ آمِنْ. Le messager sallallahu alayhi wa sallam est monté sur le minbar et a dit Amin, Amin, Amin. Les compagnons le regardent et n'entendent aucune invocation pour répondre Amin. Faqil, Ya Rasulallah, innaka sa'idta al-minbara faqulta Amin, Amin, Amin. Il dit, ô messager d'Allah, tu es monté sur le minbar et tu as dit Amin, Amin, Amin. Comme s'il voulait l'interroger. Pourquoi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit. Faqala inna Jibra'il alayhi salam atani. Jibril est venu à moi. Les gens ne l'ont pas vu, mais lui l'a vu alayhi salatu wa sallam. Faqala man adraka Ramadan, man adraka shahra Ramadan, falam yughfar lah, fadakhala an-nar, fa'ab'adahu Allah. Qul amin, faqultu amin. Et m'a dit, quiconque atteint le mois de Ramadan et ne se voit pas pardonner, il ne se fait pas pardonner pendant Ramadan, qu'il entre au feu et qu'Allah l'en éloigne. Dis Amin. J'ai dit Amin. Subhanallah. Le meilleur des anges, Jibril alayhi salam, cette immense créature aux 600 ailes qui a recouvert tout l'horizon, a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala contre toute personne qui ne profite pas du mois de Ramadan pour se faire pardonner ses péchés. Il a invoqué Allah et le meilleur des prophètes a répondu Amin. C'est donc inévitable. Toute personne qui ne voit pas ses péchés pardonnés pendant le mois de Ramadan est sous la menace de l'entrée au feu. Qu'Allah nous en préserve. Pourquoi cela? Car c'est une saison où les portes du paradis sont ouvertes. Les portes de Rahma, il est tellement facile de se faire pardonner que celui qui ne s'est pas fait pardonner n'est que celui qui n'a pas cherché à l'être. et à avoir le pardon d'Allah. Wallahu ta'ala al-musta'an. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum.